La personne humaine dans les sciences contemporaines, c'est le module numéro 9 à Philanthropos, animé par Dominique Lambert. Bonjour.
Bonjour.
Dominique Lambert, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes aussi docteur en physique, vous êtes enseignant et chercheur à l'université de Namur, et c'est vous qui nous proposez ce module personne humaine dans les sciences contemporaines. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire essentiellement, l'objectif principal de ce module?
On pourrait dire qu'un premier objectif est d'abord de penser la manière de faire dialoguer science, philosophie et aussi théologie. Donc le premier but du module est d'arriver à poser clairement la manière dont on peut penser la science et la théologie et aussi la philosophie, sans les confondre, mais en les articulant.
Quels sont les risques principaux? Parce qu'on peut, effectivement, vous avez dit confondre ou les séparer radicalement. Quels sont les courants qui sont représentatifs un peu de ces deux extrêmes?
On pourrait classer ces différentes ces modes de dialogue ou modes d'interaction entre science, philosophie et théologie en trois catégories. Une première catégorie qui serait le concordisme et qui consiste à mélanger ou à ne pas faire de différence entre, par exemple, science et théologie. Mais ce mode d'interaction, évidemment, n'est pas compatible, par exemple, avec une théologie chrétienne. Par ailleurs, elle pourrait être compatible avec une vision de type panthéiste. Mais donc, ce premier mode confond, disons, science et théologie. Un deuxième mode d'interaction pourrait être la position symétrique, c'est-à-dire, pour ne pas confondre, je sépare radicalement, et on pourrait appeler ça une position discordiste, mais alors là, la dimension théologique se trouve dans une situation d'arbitraire total, sans référence et artificielle par rapport aux représentations de la science. Alors cette position a le mérite de ne pas confondre, mais en séparant radicalement, on débouche sur une conception d'une théologie qui n'a presque rien à voir avec la description du monde telle que les scientifiques la font. Alors on pourrait dire qu'une conception qui vient corriger un peu ces deux visions excessives serait un mode d'articulation où on ne passe pas directement de la science à la théologie, hein, conception de l'homme ou de la vie en science n'est pas directement relié à une anthropologie, par exemple chrétienne, ou à une représentation de la vie dans le cadre d'une théologie, de la nature, par exemple, mais on fait dialoguer les deux discours, science et théologie, par la médiation de la philosophie. La philosophie recueille des questions que la science se pose, mais auxquelles à laquelle la science ne répond pas, et d'une certaine manière, la philosophie balise des réponses possibles, et la théologie donne une lumière, une intelligibilité supplémentaire qui permet justement de dégager parmi les solutions possibles une solution compatible avec la révélation. Donc on pourrait dire, la philosophie vient comme médiation, évitant que science et théologie soient complètement séparées. Donc elle est un lien, mais en étant une interface, la philosophie montre aussi que science et théologie ne sont pas confondues. Donc c'est la pensée d'une articulation via la médiation philosophique qui est ici en jeu et qui ne fait dans le fond que reprendre certains grands axes suggérés par l'encyclique Fides et Ratio qui insistait justement sur une médiation philosophique.
L'intérêt de positionner déjà ça dans la première partie du module, c'est de nous montrer que la science ne se suffit pas à elle-même, contrairement quand même à un grand courant qui parcourt le monde.
Oui, je dirais que le but du premier temps de ce module, c'est d'abord de montrer toute la richesse de l'approche scientifique, toute sa valeur, toute sa portée, donc de bien respecter cette richesse et cette portée, mais de montrer que peut-être si la science voit tout ce qu'elle doit voir dans son ordre empirique, elle ne voit pas peut-être la totalité de ce qu'il faut voir pour appréhender la réalité dans toute sa richesse. Donc, loin de moi l'idée de dénigrer la science, au contraire, ce serait très dangereux, on tomberait dans un obscurantisme. Non, il faut respecter les acquis de la science, mais il faut montrer que la science, effectivement, ne nous suffit pas dans une approche complète du réel, parce qu'elle ne peut pas répondre par elle-même à toutes les questions, par exemple, de sens que l'homme pourrait se poser. On pourrait dire la science possède une série de limites dans le sens où elle met entre parenthèses certaines questions pourtant fondamentales, la question du sens par exemple, et elle ne voit pas certaines choses parce que méthodologiquement elle a décidé de ne pas regarder un certain nombre de choses. Et donc ce qu'il faut faire dans un deuxième temps par exemple pour la question de la vie, de la personne humaine, c'est alors de montrer que l'extrême richesse de la description scientifique de la vie et de l'homme n'épuise pas la réalité de l'homme en particulier. Et donc, à partir du moment où on prend conscience, pourrait-on dire qu'il y a une réalité en l'homme qui n'est pas épuisée par la représentation scientifique, comment penser ce qui déborde du champ scientifique? Comment le penser d'une façon qui reste, on pourrait dire, raisonnable? Comment la penser dans le cadre d'une anthropologie qui respecte les acquis de la science, mais tout en n'étant pas emprisonné dans une vision scientiste, qui ne serait même pas cohérente par rapport à la science, puisque la science elle-même ne peut pas prouver quel est le seul langage qui permette d'arriver à la vérité.
Donc le module montre comment on peut rendre compatibles les deux approches. Comment on peut, est-ce qu'on pourrait dire, comment on doit rendre compatibles les deux approches? Est-ce que c'est une nécessité par honnêteté?
Mais c'est-à-dire que c'est une nécessité pour le croyant. Je veux dire, il ne s'agit pas d'une nécessité, on pourrait dire, logique, mais on pourrait dire c'est une exigence du croyant qui, d'une certaine manière, ne peut pas vivre écartelé entre deux mondes. Le monde d'une foi qui serait une foi arbitraire, on tomberait alors dans le fidéisme, et le monde d'une science clôturée sur elle-même, scientiste. Donc le problème, si on ne pense pas à l'articulation entre science et théologie, si on ne pense pas à l'articulation entre vision biologique de l'homme et l'anthropologie chrétienne, alors on risque de se retrouver écartelé entre deux visions qui n'ont rien à voir, et on brise par là toute la cohérence de la pensée. Et on doit alors avouer soit que la foi est purement arbitraire, ou bien, d'une certaine manière, que la science peut vivre enfermée sur elle-même et répondre de façon satisfaisante à toutes les questions. Mais ni l'une ni l'autre des positions n'est, dans le fond, compatible. Enfin, ni, par exemple, le fidéisme n'est certainement pas compatible avec une théologie catholique, comme l'a redit d'une certaine manière Fides et Ratio, mais comme on le voit très bien, par exemple, dans les acquis du Concile Vatican I, par exemple, le fidéisme est écarté, mais tout autant que le rationalisme qui clôture la raison humaine sur elle-même. Donc c'est une nécessité pour le croyant d'articuler et donc d'une certaine manière de découvrir qu'il existe une médiation. Et le but du module est justement de montrer qu'une telle médiation est pensable, raisonnable, c'est il y a une solution possible. Bien entendu, elle n'est pas, on ne peut pas le démontrer comme on démontre un théorème, donc il ne s'agit pas là d'une nécessité formelle, mais c'est une exigence en tout cas, une exigence qui nous vient d'un respect des limites d'un discours et aussi d'une exigence d'une foi qui ne se veut pas une foi arbitraire, mais une foi en l'incarnation, une foi dans laquelle on reconnaît que ce que l'on dit de Dieu, du monde, de l'homme, n'est pas dit en l'air, mais a un lien avec la réalité que nous vivons. Le gros danger serait d'une certaine manière de couper la foi de son enracinement, de son incarnation, pour en faire simplement quelque chose de purement extérieur et de purement optionnel, si on veut.
Dominique Lambert, vous avez donc deux casquettes, puisque d'un côté vous êtes docteur en philosophie, d'un autre docteur en physique et avec une spécialité en astrophysique. Est-ce que, pour vous, dans quel ordre, je dirais, la démarche s'est faite pour aborder les choses par ces deux versants, si l'on peut dire?
Mais on pourrait dire que moi, j'ai toujours été, disons, intéressé par les deux domaines. C'est vraiment de façon parallèle qu'intervenait ce questionnement à la fois scientifique, philosophique et aussi théologique. Donc ces questions n'ont jamais été pour moi des questions, on pourrait dire, ça n'a jamais été comme une succession, mais plutôt comme un parallélisme. C'est des chemins parallèles. On ne peut pas d'ailleurs faire de la science sans se poser des questions de philosophie. On ne peut pas être un philosophe en ne s'intéressant pas aux sciences de la nature ou à un champ d'expérience quel qu'il soit. Donc, pour moi, c'est, disons, dans un même mouvement que se posaient les questions à la fois scientifiques, philosophiques et également théologiques.
Il y a eu des émerveillements dans ce parcours ?
Bien entendu. On ne peut pas faire, par exemple, des sciences aujourd'hui, hein, sans s'émerveiller du caractère extraordinaire des phénomènes de la nature, leur régularité, leur profondeur d'une certaine manière. Donc la science est un lieu d'émerveillement. C'est d'ailleurs souvent les grands scientifiques comme par exemple Einstein ou comme un De Duve, etc., sont des gens qui en arrivent à, dans le fond, une position admirative, contemplative, qui avait d'ailleurs été soulignée, hein, cette attitude d'Einstein avait été soulignée par Zundel, hein, le théologien suisse, hein, qui justement soulignait cet aspect contemplatif, admiratif des scientifiques. Hein. Moment d'émerveillement aussi dans la découverte que le message chrétien, hein, ne s'oppose pas du tout à tout ce qui m'avait été donné dans ma formation scientifique. Émerveillement devant une intelligibilité aussi de la foi, même si, bien entendu, la foi et la révélation ne se réduisent pas, hein, à du rationnel pur, sinon nous tomberions dans une sorte de rationalisme, mais émerveillement devant une sorte de cohérence de la foi et d'une sorte de rencontre entre deux approches. Oui, ça a été aussi un moment d'émerveillement, émerveillement aussi devant la découverte d'une pensée philosophique qui permet justement de faire ce pont, hein, entre deux approches. Donc c'est vrai, c'est une suite d'émerveillements, mais qui est, je pense, le propre de tous ceux qui réfléchissent sur la nature, sur l'homme, hein, devant un monde extraordinaire, si vous voulez.
Est-ce que la science et cette approche-là vous a permis de mieux comprendre le sens, par exemple, de l'homme ?
Mais la science contribue certainement à enrichir la vision que nous avons de l'homme et à la préciser. Elle ne l'épuise pas, hein, bien entendu. Moi, je pense que la réalité profonde de l'homme déborde infiniment ce que peut nous dire la science, mais il ne faudrait pas éliminer ce moment, cette découverte que nous apporte la science, parce qu'elle précise, elle est comme une préparation. Hein. Il y a quelque chose dans les représentations des sciences qui sont comme des signes d'autre chose. Hein. Maintenant, comment les interpréter, ce n'est pas à la science à le dire, mais c'est clair que la science peut être considérée comme une sorte de préparation, hein, avec des signes qui indiquent peut-être une autre manière de penser l'homme.
Alors, Dominique Lambert, je vous remercie.
Merci.